Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le Réveil culturel. Tous les jeudis, on traite de l'actualité musicale dans ce magazine de pop culture. Et aujourd'hui, je reçois la chanteuse Amel Metlouti à l'occasion de la sortie de son album « Everywhere We Looked Was Burning ». Installée à New York depuis quelques années, celle qui a accompagné avec ses chants et sa musique la révolution du jasmin de son pays d'origine, la Tunisie, chante désormais aussi en anglais et élargit son combat pour une vie meilleure en incluant les enjeux écologiques. Ce réveil culturel en compagnie d'Amel Metlouti a été préparé avec Corinne Amar à la coordination, Christine Robert à la réalisation et Alain Joubert à la prise de son.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
The first rise of the light is always floating. When they all came to the
encore de révolution, et Amel Metlouti, bonjour.
Bonjour.
De quoi vous parlez dans ce morceau extrait de votre dernier album, Everywhere We Looked Was Burning, que je traduirai par Partout où nos yeux se posent, ça brûle.
Exactement.
Comme un cri d'alarme. Et dans cette chanson, vous parlez de quoi?
Donc cette chanson s'appelle Rescuer, qui veut dire le sauveur. Et c'est une chanson qui m'est venue vraiment d'entrée. C'est assez étonnant pour moi parce que c'est comme s'il y avait une idée qui s'était écrite et puis qui tout d'un coup ressort à travers le stylo sur le papier. Et en fait, j'ai réalisé que on est dans une phase où je trouve que nos émotions et nos sens sont pratiquement ils sont en voie de disparition. On est beaucoup moins sensibles les uns aux autres, on est vraiment de plus en plus centré sur soi, les choses n'ont plus autant de valeur qu'avant. Donc c'est un peu un morceau comme une pointe d'aube salvatrice, une pointe d'aube qui pointe l'espoir.
Et c'est la première fois que vous chantez en anglais ou que vous consacrez tout votre album à la langue anglaise. C'est-à-dire que ça y est, vous vous êtes intégré à votre nouvelle vie new-yorkaise. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à New York?
Mine de rien, ça va faire bientôt 5 ans.
Ouais, bah c'est peu 5 ans.
Ah, c'est quand même un bon chapitre. Hein.
Ouais.
Bon, la moitié de ce chapitre a été consacrée à la naissance de ma petite.
Mais le fait d'écrire en anglais, est-ce que vous l'utilisiez l'anglais avant de vous installer à New York, Malbeth Luthi?
Avant de m'installer à New York, alors l'anglais, c'est quand même pour revenir un peu aux sources, comme justement est le but de cet album. Quand j'ai commencé à chanter, mes premiers amours, c'était des chansons en anglais. Donc ma langue musicale maternelle, ma langue de chant maternelle, c'est l'anglais. Mais je m'en suis un peu éloignée pour essayer de chercher un chemin qui est vraiment à moi, pour essayer de chercher mon originalité, mon unicité. Et puis ces dernières années, je me suis sentie prête. Je me suis sentie enfin... complètement propriétaire de ma voix d'une façon où je peux vraiment l'adapter à des langues différentes tout en restant profondément moi-même.
Alors cet album, vous l'avez réalisé dans une forêt, c'est-à-dire loin de la grosse ville, loin de New York, pas loin de Woodstock. Je pense que là aussi ce choix n'est pas innocent, Malbeth Luthi. Était-ce juste parce que vous vouliez faire entendre la nature, parce qu'on écoute tous les éléments de la nature dans votre disque, le vent, l'eau, le feu, ou est-ce aussi une manière de dire que votre combat écologique commence aussi par cette manière de choisir le lieu où on enregistre un disque?
Ben c'est exactement tout ça. J'ai réalisé de plus en plus que j'avais vraiment besoin de courir à la nature pour me préserver, pour me ressourcer et aussi pour ressentir en fait cette vulnérabilité, parce que j'adore me poser en face des montagnes ou en face de l'eau, parce que c'est des forces devant lesquelles on se sent vulnérable, devant lesquelles on se remet en question, et c'est ça en fait qui est aussi nécessaire à la création. Et après, d'une certaine manière, la nature, c'est devenu vraiment le fil rouge qui a habité, qui a hanté, qui a secoué cet album en étant un personnage principal qui tient plusieurs rôles tout au fil des chansons, de la mère, la libératrice, mais aussi parfois la victime meurtrie et aussi parfois le tyran.
Voilà. Et quand vous parlez de ça, effectivement, on cherche, parce qu'on vous connaît à partir de votre engagement pour la révolution tunisienne, votre pays d'origine, Malbeth Luthi, on cherche une signification au mot en disant que c'est sans doute encore des propos engagés. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée?
J'aime bien le mot « on cherche ». C'est vrai qu'on essaye toujours de me chercher, mais on ne me trouve pas forcément là où on m'attend.
Mais vous êtes bien tunisienne, vous avez bien chanté pour la révolution du jasmin.
Je suis bien tunisienne et puis j'explore ma tunisianité de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus apaisée.
Depuis que vous avez quitté la Tunisie, c'est ça ?
Depuis que j'ai quitté la Tunisie, et puis surtout ces dernières années, j'ai trouvé que, je parlais justement d'identité, que à travers mes identités multiples, c'est comme ça que je m'identifie et c'est ça le genre de la musique que je fais.
Et s'il fallait résumer un peu votre parcours à Malbeth Luthi, votre initiation à la musique, ça commence dans quel environnement ?
Ça commence avec la musique classique de Beethoven, Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski, chez mes parents à Tunis, depuis l'âge de 10 ans, je dirais. Voilà, on n'a pas été élevé dans un environnement arabe classique, mais j'écoutais Sidney Bechet, Mahalia Jackson, Louis Armstrong, puis beaucoup, beaucoup de musique classique, parfois du Chirimem ou du Marcel Khalifa, mais vraiment pas du tout
Donc des chanteurs engagés, ouais.
Voilà. Donc j'ai toujours été amenée à être dans la puissance de la musique, qui au-delà de la musique c'est de l'art, et dans la profondeur quoi, du propos.
Vous avez eu un apprentissage en Tunisie, en passant par le conservatoire par exemple, ou par un professeur qui vous aurait inculqué les bases pour jouer d'un instrument, un melmetlouti, ou d'un prof de chant?
Malheureusement non, mes parents n'étaient pas aussi encourageants. Alors il y avait une institutrice qui m'invitait à chanter les comptines sur les strates pour les apprendre aux autres élèves. Donc c'est la première personne qui avait quand même reconnu mes premiers talents quand j'avais 8 ans. Après ça, mon prof de chant, ça a été Céline Dion. Et ces chansons que j'écoutais avec beaucoup de soif, c'est vraiment là où j'ai vraiment appris à placer ma voix, à travailler toutes les nuances.
Est-ce que vous avez chanté, est-ce que vous avez eu une carrière avant ce printemps arabe, avant cette révolution du jasmin en Tunisie? Parce que c'est à partir de là qu'on entend parler de vous par vos chants qui ont accompagné ce mouvement incroyable de mobilisation des Tunisiens contre le dictateur Ben Ali.
Oui, alors pour moi, donc ma carrière, elle a même commencé au début des années 2000 avec mon groupe de métal à la fac, et du coup c'était mon premier engagement et ma première façon de ressortir tout ce qui brûlait à l'intérieur de moi via du rock engagé ou même du rock gothique, de Rage Against the Machine du rock un peu plus
avec des compositions originales ou c'était des reprises même?
C'était beaucoup de reprises. On a fait quelques compositions qui ne sont pas restées, mais on était très très bons. C'était un groupe qui avait fait fureur à l'université à l'époque. Et puis la phase que le monde a connue, elle a commencé en 2008 en fait. Pour moi, la révolution, elle est de 2004-2005. C'est là où j'ai commencé à écrire les premiers morceaux en arabe tunisien sur la liberté d'expression et sur la révolution. Et ensuite 2008 où je suis arrivée à Paris et j'ai vraiment commencé je suis vraiment devenue musicienne à temps plein à ce moment-là. Et de 2008 jusqu'à 2011 où j'ai écrit beaucoup de chansons sur les révolutionnaires tunisiens, sur les étudiants, sur notre quête.
Tous ces chants ont été repris avec vos slogans. Alors du coup, on a envie d'avoir votre avis sur ce qui se passe en Tunisie. Cette élection présidentielle, ce nouveau président élu d'une manière démocratique, un fait suffisamment inédit dans le monde arabe pour le préciser. 72% des voix sont allées donc à Kais Saied. C'est comme ça que cet universitaire qu'on présente comme un universitaire conservateur. Que pensez-vous de cette élection, de la victoire, de l'arrivée de ce président à la tête de la Tunisie, Emel Metlouti?
Je pense que ce qu'on peut lire là-dedans, avant de juger ce qu'on ne peut pas encore totalement juger, c'est que les Tunisiens ont retrouvé l'espoir dans un candidat indépendant, apparemment, un candidat qui insuffle une droiture que les Tunisiens ne connaissent pas à cause de tout l'historique de corruption, tout l'historique mafieux. Et donc je pense que c'est une Tunisie qui a envie de vérité et d'égalité, et ça c'est positif.
Donc vous êtes plutôt contente de cette élection?
Je suis contente de voir les gens s'unir, vous savez, c'est pas toujours évident, et je suis contente de voir les Tunisiens en fait retrouver cette flamme qu'on avait perdue depuis la révolution. Donc ça permet en fait de construire et de justement être là, être éveillé.
Emel Metlouti, il n'y a que deux chansons en arabe dans votre dernier album qui vient de sortir, Everywhere We Look at What's Burning. Pourquoi?
En fait, normalement, il y en a trois. Mais il y en a un qui a été écarté et que j'espère partager avec le grand public au courant de l'année 2020. Une de mes plus belles chansons, d'après moi.
Mais alors pourquoi elle n'est pas dans le disque?
Parce qu'on a privilégié les rythmes moins lents pour le disque. Mais du coup, il reste donc deux titres en arabe. C'est les deux premier titre que j'ai écrit, en fait, que j'ai commencé à écrire au début du processus de la production de ce nouvel album. Mais je savais que je voulais faire un album en anglais. Donc je savais que et je voulais pas, en fait, retirer ces deux chansons. Je me suis dit, c'est ça, il faut que je sois moi-même avec mes identités multiples. Mais j'insiste quand même sur le fait que c'est un album en anglais et avec quelques accents émels, quoi.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Amal Matlouti sur France Culture dans le réveil culturel avec cet extrait de votre dernier album Berouh, ça parle de l'âme, je suppose.
Voilà, ça veut dire de l'âme, quelque chose qui émane de l'âme. Mm-hmm. C'est le premier morceau en fait qui a été écrit, la toute première pierre apportée à ce grand édifice qui est cet album. Et ce qui a beaucoup mariné dans ma tête, c'est la tragédie de l'exode syrien. Et je voyais, j'avais cette image en tête d'une apocalypse et d'une marche de infini de gens qui sont en train d'échapper à un destin assez tragique. Et donc pour moi, cette chanson, en fait, c'est un peu le soundtrack de l'apocalypse. Et l'apocalypse, entre autres, c'est la nature qui est en train de nous poursuivre pour éradiquer cette espèce humaine qui n'a pas su prendre soin de sa source.
Alors, comment vous avez réalisé cet album, Amal Matlouti? Avec quel réalisateur? Avec quelle directive? Avec quelles envies?
Alors, il y en avait vraiment plein. J'ai commencé d'abord toute seule, ce que je n'avais jamais encore fait jusque-là. C'est-à-dire que je suis partie en résidence toute seule, en mode écriture, production, tout à la fois.
Au beau milieu de la forêt, ça c'est vrai?
Voilà.
Ou c'est juste pour faire joli dans le...
C'était à Woodstock, dans une petite cabane, vraiment au milieu de la forêt, où on voit des cerfs arriver tous les matins. Avec le silence, je pouvais entendre les petites voix dans ma tête.
Vous avez enregistré, hein, d'ailleurs.
Donc pour moi, en fait, j'ai pas fait de séparation sur cet album. Il n'y a pas eu d'écriture, phase de production, phase d'arrangement. Non, en fait, c'est je suis vraiment allée à la recherche de l'idée, à la recherche de l'idée intéressante. Donc, j'ai fait une série de plusieurs résidences, d'abord toute seule, ensuite avec Amine Mintani qui m'ont aussi mon coproducteur de le dernier album. Ensuite, avec Karim Matouman, qui est mon guitariste depuis plusieurs années. Ensuite, j'ai commencé à interagir sur Internet avec quelques producteurs, donc à distance, dont Ash Kusha, le producteur iranien et musicien fantastique qu'on voyait dans Les Chats Persans, le film. Et Steve Moore, qui a un duo de musique électronique, mais qui a vraiment été le magicien des synthétiseurs sur cet album, parce qu'à l'origine, mon idée, c'était de créer des instruments à partir de la nature. Et au final, on a enregistré beaucoup de sons de nature, mais on a beaucoup travaillé sur les sons et sur les nappes de clavier, parce que cet album, je le voyais vraiment aussi très vocal et très épuré. Et enfin Ryan Seaton qui vient en fait de la musique contemporaine et qui travaille beaucoup avec les compagnies de danse contemporaine, qui est un univers où je me ressource beaucoup. Donc ça a été voilà le mélange de tous ces univers-là. Puis à la fin, j'ai réuni tout ce monde-là ensemble, peut-être malgré, contre leur gré, et j'ai essayé un peu de voir qu'est-ce que ça produit en fait quand tous ces esprits très éveillés et très talentueux peuvent faire quand ils sont ensemble. Et je suis vraiment très très satisfaite du résultat.
Amel Betlouti, vous parlez aussi de poètes qui vous ont accompagné pendant l'élaboration de cet album. Alors, Rilke, ok, on le connaît, T.S. Eliot aussi, mais vous parlez d'un certain John Ashbery. C'est qui ?
C'est un poète américain, alors qui est extrêmement reconnu et respecté, qui est décédé, je crois, il y a 1 ou 2 ans, qui est extraordinaire et qui est surtout reconnu pour être très complexe et qui est beaucoup dans l'abstraction et qui est très difficile à comprendre. Et c'est mon mari qui m'a offert un recueil.
De poésie ou de poésie. Ou texte
de poésie, voilà. Ouais. C'est de la poésie, mais c'est comme de la prose, en fait. Pour moi, c'était une révélation parce que je m'étais vraiment jamais mis à lire de la poésie en même temps que j'étais en train d'écrire et en même temps que j'étais en train de produire. Donc, c'était un peu comme mes talismans pour que ma tête soit toujours... Parce que quand même, c'était une grande responsabilité pour moi de me mettre à écrire en anglais. Et je voulais surtout pas le faire comme quelqu'un qui écrit assez bien pour quelqu'un qui ne parle pas l'anglais. Je voulais vraiment présenter quelque chose de poétique, d'intellectuel, pourquoi pas. Et donc, je me rappelle, il y avait cette phrase que j'avais lue dans un de ses poèmes, « enveloppée dans une identité comme un manteau ». Et il y avait des centaines et des centaines d'expressions comme ça, cette force d'utiliser les mots, à créer ces images, cette puissance. Et c'est ça que j'ai essayé, en fait, d'aller dans ce côté lyrique et très imagé.
Parce que c'est vous qui écrivez, vous écrivez toutes vos chansons, Amel Betlouti.
Oui, pratiquement la plupart du temps, je reçois des propositions, mais pour moi, le processus de la production musicale, pour moi, c'est un tout. Alors, je dis pas que je suis une grande parolière, une grande compositrice, mais en tout cas, c'est important pour moi que ce soit un tout.
Chanter est une bénédiction qui soulage de tous les maux. Quand on chante, on n'est plus terrestre, on s'ancre. Voilà ce que vous avez déclaré dans, dans je ne sais quel journal d'ailleurs, mais j'avais retenu, j'avais inscrit ça dans vos petits calepins à Malmette Loutil.
Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui ne rêverait pas de chanter. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir ce... Parce que c'est un grand pouvoir et c'est un grand exutoire. C'est, pour moi, c'est la chose qui me fait vivre. C'est la chose la plus belle au monde, de pouvoir chanter.
Ça y est, vos parents, ils ont accepté votre vocation. Ils sont heureux, ils sont contents de votre succès.
Ah oui, ma maman est ma plus grande fan de tous les temps. Et c'est très mignon et ça me touche beaucoup.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci à Malmette Loutil d'être venue ce matin nous présenter, nous parler de votre dernier album « Everywhere We Looked Was Burning ».
Merci à vous.
On se retrouve demain, et demain comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, et je serai avec Lamia Diadé, qui évoquera aussi bien le Beyrouth en guerre de son enfance que le Beyrouth en ébullition d'aujourd'hui, alors que les manifestations contre le régime politique s'intensifient. Bonne matinée sur France Culture, on reste sur des notes de votre musique. Vous voulez dire quelque chose, Malmette Loutil ?
Ah, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire sur le Liban.
Ouais.
C'est ils sont en train de nous donner une grande leçon d'humanité, de beauté, de musique, de poésie. Alors, en avant.
Merci.